قلت لها إني أسد كاسر قلت لها إني أسد كاسر بيضاء لك ترى يشوب صفاها
Radio Panique 105.4, bienvenue dans Du Boutique. Comme tous les mercredis entre 18 et 19h, on se retrouve avec notamment notre ami Hubert pour parler de musique. Salut Hubert.
Bonjour Aymeric et bonjour Galia, puisque c'est bonjour. Galia Benali qui est en invité ce soir. Elle est en invité parce qu'elle fait un concert au Sangor le 20 mars et ce sera un concert en hommage à Oum Kalsoum, cette grande chanteuse égyptienne.
Oui.
Voilà. Alors on a entendu un morceau de ton album Wild Arisat, qui est un album qui date déjà d'il y a un certain temps.
2001.
Voilà, un album qui est passé, dont on ne va pas trop parler parce que je sens que ça te met dans une humeur...
Non, c'est passé, c'est fini, voilà.
Ok. En tout cas, moi, je voulais juste dire que c'est l'album qui m'avait fait découvrir ton travail et que j'avais fort accroché à cet album-là. Moi qui, à l'époque, n'y connaissais rien en musique orientale, c'était une porte ouverte vers
la musique. Oh, c'est pas du tout musique orientale. Wild Arisat, c'était vraiment, c'était le début de la world music et,
voilà.
Et c'était un petit peu de tout. Et c'est pour ça que j'ai pas trop envie. Voilà, c'était un laboratoire, c'est magnifique.
Okay.
Mais voilà, il y a d'autres choses qui sont passées entre-temps. Restons positifs et du présent et même parlons de l'avenir.
Ok, mais bon, on va quand même voir un peu ton histoire, hein, parce que tu es là, on n'a pas l'occasion de t'avoir chaque semaine. Donc en fait, tu es tunisienne,
oui.
Tu es née ici, je pense,
oui.
Mais tu es retournée assez jeune en Tunisie.
3 ans, 4 ans, oui,
ouais.
J'ai grandi là-bas.
Voilà, dans un petit village... dans le
au bord de la mer.
Au bord de la mer.
Soleil toute l'année.
Waouh.
Et puis je suis revenue ici.
Et alors, la musique, ça t'a pris quand en fait? Ça t'a pris déjà à la maison, il y avait de la musique
oui,
tout le temps.
Oui, mais le petit village est une réponse à tout ça, parce qu'on restait quand même assez cloîtrés à la maison. On restait beaucoup à la maison, il n'y avait pas beaucoup d'endroits publics où les filles pouvaient aller. Même le cinéma, j'ai quasi jamais été au cinéma quand j'étais dans ce village-là, ça ne se faisait pas.
C'était un village très conventionnel.
Oui, très du sud tunisien, très touristique. Donc c'est vraiment, c'est un monde à deux vitesses.
Ouais.
Mon père travaillait dans un hôtel en tant que médecin et donc régulièrement on allait là-bas. Mais c'était vraiment, il y avait l'habit traditionnel quasi où on restait à la maison, enfin les traditions. Tout ça. Et puis, il y avait ce côté où, une fois à l'hôtel, on était en short, on jouait du tennis, du volleyball, on faisait du sport. En tant que fille, c'était pas bikini, des trucs comme ça. Aller à la plage et rencontrer des Occidentaux.
Uh-huh.
Donc, oui, et donc, c'est comme ça que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté. Et j'aimais particulièrement la musique arabe et indienne classique.
Uh-huh.
J'écoutais pas tellement l'occidental. Si un petit peu de Gainsbourg ou juste ce qu'il faut, finalement.
Okay.
Et du classique. Mon père aimait beaucoup les classiques allemands et tout ça, donc oui, voilà, ça c'est le genre de choses qu'on écoutait, mais sinon beaucoup de classiques arabe et de partout, parce que quand on dit arabe, c'est énorme. Je veux dire, on peut pas dire arabe et s'arrêter au Maroc, en Algérie, Tunisie. C'est vraiment l'Égypte, le Liban, et le l'Irak, la Syrie. Ouais. C'est vraiment c'est tout à fait des mondes très différents, mais tous sous un seul mot arabe.
D'accord, mais disons que pour rentrer dedans, on a besoin de petites références et de mots, parce que vu qu'on ne s'y connaît pas. Voilà. Mais donc, toi, tu as écouté tout ce panel de musique orientale. Mmh. Voilà. Et puis, il y a un moment où tu as eu envie de jouer aussi.
Mais c'est vraiment... peut-être que je n'ai... Bon, chantais beaucoup, hein, une petite casserole et hop, c'est parti, tout le monde chante ensemble. Et on avait beaucoup ça. Comme il n'y avait pas d'autres endroits où aller, ou assister à des concerts, enfin, c'était pas faisable, et puis il n'y avait pas. Et donc, on faisait nos petits concerts à la maison, et quand on avait des invités, ben, à un moment donné, il fallait toujours, à un moment donné, pousser la chansonnette, écouter beaucoup, toujours la radio, toujours la télé, même quand on est à table, il y a la télé, il y a la radio, enfin, c'est vraiment... Et donc, quand je suis arrivée en Belgique, ben, tout ça, ça m'a beaucoup manqué. Bon, surtout qu'ici, on allume la radio, c'est occidental, c'est tout. Ouais. Et il y avait une radio, c'était Radio Campus, où pendant une petite heure, tous les dimanches, il y avait des émissions arabes et j'entendais parler arabe et c'était très agréable. Ah. Bon, arabe, égyptien, enfin... Voilà, c'est cet arabe-là que je voulais entendre, parce que j'écoutais pas tellement la radio tunisienne non plus quand j'étais là-bas. Donc, c'était vraiment ces chansons arabes, les films égyptiens, les références que j'allais louer, regarder et dévorer chez moi. Et donc oui, l'envie de chanter et tout ça est venue, et c'est comme ça que j'ai rencontré mon compagnon de cette époque-là, vraiment avec qui j'ai tout fait en musique, Moufadel Adoum, qui était luthiste et qui venait faire ses études de décoration d'intérieur.
Ouais. Alors que toi, tu étais à Saint-Luc.
Au graphisme.
En graphisme, ouais.
En graphisme à Saint-Luc. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, c'est vraiment, ça a commencé pour s'amuser et puis ça a été comme une nécessité, comme ça, de... Puis non, il y a eu un concert, tout simplement, et les gens, j'étais très étonnée de voir cette oreille occidentale qui comprend pas un mot de ce que je raconte, et qui accrochait complètement, et qui en demandait, et puis on a été invités un peu partout après, on a fait des petits cafés, juste luth et voix, donc très très austère quelque part. Ils connaissent pas cet instrument, la voix, bon, puisque moi je m'estime pas chanteuse, enfin j'avais plus... Peut-être, et puis finalement, j'ai appris aussi à chanter par rapport à cette oreille occidentale.
Toi, tu n'avais pris aucun cours de chant, ni là-bas,
non,
ni
jamais.
Ici.
Non.
C'est tout à fait instinctif, naturel.
J'annonnais des chansons que j'avais apprises là-bas
et que j'aimais beaucoup. Et pour un public occidental, ça passait.
Ça passait très bien, mais bon, il faut dire aussi qu'on n'essaye pas de faire semblant. On chantait vraiment des trucs très difficiles, mais qui nous touchaient profondément.
Oui, tu m'as dit d'ailleurs que ton luthiste... a commencé par te faire des tests,
de faire chanter du Oum Kalsoum, justement. C'est l'école, c'est la référence. Si on arrive à chanter telle et telle, et puis c'est des chansons très précises, si on passe le test par rapport à ça, en général, c'est dans cette manière de poser le mot, de sentir, de tout ça. Et moi, je veux dire, je pouvais pas chanter quelque chose que je ne sentais pas ou que je n'aimais pas. Donc, dans ce sens-là, je suis pas une vraie chanteuse qui exécute. J'avais besoin de communiquer quelque chose que j'aimais beaucoup, une passion pour une chanson, ou quel que soit le public finalement, ça passait. Et c'est là que je me suis dit, c'est chouette finalement, c'est quelque chose qui va très loin, pour une étrangère ici, quelque part, c'est finalement, si on fait les choses vraiment avec sincérité et quelque chose qui vient du cœur, finalement, ça va vraiment te toucher n'importe qui, puisqu'on agit tous de la même manière finalement, on répond tous aux mêmes émotions. Et si ça se situe au niveau de l'émotion et pas du faire semblant ou pas de je vais faire quelque chose qui va marcher, qui va pêcher, qui va toucher. Si je réfléchis avec ma tête, je vais pas y arriver, ou alors je vais toucher une dizaine de personnes ou une centaine max. Alors que là, ça, même les gens qui sont réticents au départ, quand ils écoutent, quand ils sont dedans, ils arrivent quand même à rentrer dedans. Parce que tout simplement, à un moment donné, c'est pas du faire semblant, c'est vraiment quelque chose de profond.
Tu veux dire, pour être universel, il faut être personnel, quoi.
Ah oui, oui. Au plus on est personnel, je pense, au plus on est original, au plus on est au fond sincère.
On touche à quelque chose de plus profond.
Voilà, on touche à ce qui est universel en chacun de nous, finalement. Okay. C'est comme la percussion en général, ce rythme comme ça, sans aucune, il n'y a pas de langue, il n'y a rien. Le rythme est universel, il touche vraiment tout le monde.
Ok. Alors je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Alors tu nous as apporté un CD qui est une collaboration avec Bert Cornelis,
pardon. Qui joue du sitar.
Ok, ben on écoute ça.
Après le petit coup de sonnette universelle que nous venons d'entendre.
Que tout le monde...
je propose un morceau.
Oh, ça a beaucoup changé maintenant. Il y a d'autres sons.
C'est peut-être moins universel que ce que tu disais.
وفؤادي ما ضر قلبك لو
Voilà, toujours sur Djibouti avec Galia Ben Ali et Berthe Cornelis. C'était la chanson Hanouman. Et en peine ouvert le CD, on voit cette citation de Sri Aurobindo. Deviens et vis la connaissance que tu as, alors ta connaissance est le Dieu vivant en toi. Ben, ça rejoint un petit peu ce que tu nous disais tout à l'heure.
Oui, Sri Aurobindo, j'ai découvert aussi ici en Belgique, enfin il est indien, mais c'est vraiment un guide, un vrai guide pour moi que j'ai bien choisi, un guide spirituel que j'ai choisi, qui rejoint un peu bien sûr toute cette spiritualité arabe, soufie, musulmane d'une certaine manière qui m'a accompagnée, mais disons qu'il m'a permis d'aller à l'essentiel plutôt que de m'attarder sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qui est péché, ce qui est pas péché, plutôt prendre cette spiritualité, donc qui n'est pas religion, dans le sens de liberté de l'être et dans le sens d'engagement aussi de l'être de vers sa liberté, plutôt. D'accord. Et c'était un peu cette collaboration, c'était fait comme ça aussi, beaucoup de liberté, beaucoup de...
Tu veux dire avec...
Avec Berthe Cornelis, et d'ailleurs dans tout ce que je fais encore maintenant, c'est très bien, Aymeric. Cette citation, c'est bien de la rappeler aussi.
Elle est écrite dans le CD.
Oui, c'est moi qui l'ai écrite. J'étais la chercher. Qu'est-ce que j'allais écrire dans ce CD? Donc, oui, c'est tout à fait ça.
Ok, on revient un peu à ton histoire, si tu veux bien. On parlait hors antenne de justement la musique indienne. Elle t'est arrivée en Tunisie, puisque ta mère était.
Ma mère était adorée depuis toujours. Enfin, il faut dire que les musiques indiennes et tout ça voyagent très bien dans le monde arabe. Il se trouve qu'on habitait pas très loin de la Libye. On était à, je sais pas, une petite centaine de kilomètres de Tripoli.
D'accord.
Et là, il y a une grande communauté indienne et donc il y avait une radio aussi indienne qui diffusait la chaîne qu'on pouvait écouter chez nous, qu'on captait. Et on pouvait avoir des films indiens, des chansons indiennes sur cassette et on écoutait énormément. C'est avec la musique arabe classique, c'est vraiment ce que j'écoutais énormément.
Donc malgré que ce soit un petit village, il y avait quand même des ouvertures culturelles, des petites ouvertures.
Il faut aller les chercher, il faut vraiment aller les chercher. Parce que si on s'arrête à la radio, c'est très très... C'est très fermé finalement, c'est radio, pas vraiment local, mais la radio, c'est très ciblé, c'est très organisé. On écoute ça, ça, ça et ça. Voilà ce que le peuple tunisien va écouter. Et telle information, et tel truc, et telle émission, et tel un peu dope aussi parfois, comme pendant beaucoup de radios. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais après, il fallait chercher. Bon, il y avait cette ville aussi qui était très, très touristique aussi en même temps. Donc, on était obligés de se dire qu'il y avait un autre monde qui existait aussi. Et bon, le fait d'aller dans les hôtels, d'écouter la musique occidentale, d'écouter autre chose, de rencontrer des jeunes de mon âge aussi à l'époque et d'échanger des musiques un peu, des cassettes.
Ouais.
Pas MP3. Ou qui m'envoyaient, eux, qui me laissaient leurs cassettes quand ils partaient, enfin des trucs comme ça. Bon, ça fait quand même qu'on est au courant de ce qui se passe ailleurs aussi.
Ouais. Mais tu es quand même baigné donc dans cette musique que tu me dis modale. Bon, moi je ne suis pas un musicien, donc
moi non plus, je connais pas.
C'est un mot qui me dit pas grand chose, mais tu m'as expliqué un petit peu.
C'est que comme en écoutant de la musique classique arabe et indienne. Je parle pas d'Oum Kalthoum spécialement, je parle aussi le Coran, voilà. Parle d'un chanteur entre autres qui s'appelait Adib Dahir, qui lui chantait le Coran avant et puis qui a commencé à chanter du ghazal, donc des chants d'amour qui
c'est du gazelle en Inde aussi.
En Inde aussi, il y a le ghazal, c'est un mot arabe qui veut dire des chants d'amour, c'est des une manière de parler d'amour, de drague. En fait, c'est il choisit un style très très libre d'improvisation, mais c'est toujours dans des modes bien précis comme ça sur lesquels tout le monde s'entend. Et par exemple, il est avec un instrumentiste quel qu'il soit, naï, flûte, luth, qanoun. Et c'est un jeu de questions-réponses, comme le jeu amoureux, finalement.
Lui, il
chante quelque chose, l'autre lui répond. Puis, à partir de ce que l'autre lui a répondu, il repart de ces notes-là et il va vers autre chose. Et c'est vraiment ces modes, c'est mis au service de l'émotion. Comme tu le sens, au moment où tu le sens, tu as des connaissances, tu vas essayer de rester dedans, ou tu vas essayer de te limiter à c'est comme dans un parc où on sait que c'est ça la clôture, et puis là-dedans, on fait vraiment ce qu'on veut.
Mais tu veux dire ce mode, c'est quoi ? C'est une série de notes,
C'est une échelle, une série de notes. Une série de notes. C'est A, B, E, G, Z qu'on utilise, c'est pas les autres. C'est ces notes-là. Et puis finalement, de ce mode-là, on peut les tordre comme on veut. Et puis aussi, on peut sortir de là vers autre chose. Et c'est là où il faut trouver. C'est là la grande connaissance des autres modes qui permet de trouver le petit pont qui va faire qu'on peut sortir et qu'on peut aller vers ça et puis revenir. Enfin, c'est tout un art. Ouais. Mais que moi, j'ai compris intuitivement, en écoutant ce genre de musique.
En étant baigné.
En écoutant le Coran, qui est la plus grande école, finalement. Parce que c'est un art encore à part d'improvisation, quelque part, de ces textes coraniques. Et c'est aussi libre comme ça. Et donc, c'est en baignant vraiment là-dedans que je suis arrivée intuitivement à capter tout ça et à jouer avec ça. Et a fait que très facilement, j'ai pu répondre, finalement, aux questions occidentales quand on me demandait. Parce que quand un Turc qui parle néerlandais, à Gand, veut me parler, il ne pouvait pas me parler parce que je ne comprenais pas le néerlandais. Moi, c'était ou français, anglais ou arabe. Donc, finalement, c'est par la musique qui me questionnait et c'est par la musique que j'arrivais à lui répondre.
D'accord.
Dans ma langue arabe. C'est un peu un discours de sourd, mais on arrivait quand même à s'entendre, à voir que finalement, on jouait la même chose, qu'on s'entendait au niveau de la compréhension. S'il n'y avait pas la barrière de la langue, on allait pouvoir se parler et s'entendre et se comprendre et passer un très bon moment ensemble.
Ok.
Voilà.
D'accord. Alors, Oum Kalsoum, tu n'es pas rentrée tout de suite dedans. Ça a été difficile les premiers temps, tu m'as expliqué.
Oui, petite, je détestais Oum Kalsoum.
Quand on est petite, c'est genre de musique un peu compliquée.
C'est vraiment compliqué. C'est vraiment, c'est un monde à poste. C'est austère, vraiment. Et puis elle a une voix comme ça entre l'homme et la femme, androgyne, ce que j'adore maintenant. Mais je trouvais à l'époque, je savais plus sur quel pied danser avec elle. Et puis c'était long. Et puis surtout qu'ils diffusaient ça juste avant notre dessin animé. Déjà qu'on avait droit qu'à 15 minutes. Mais alors, on nous disait.
Il fallait mériter le dessin animé.
Et puis non. Et puis ce dessin animé. Parfois on ne l'annulait parce que ça avait dépassé au niveau du temps.
Ah, parce que la chanson n'a pas un timing précis.
Ils ont laissé, puis ils ont dit ah mais non, on n'a plus assez de temps, on s'excuse auprès de nos petits copains, les petits, c'est toujours eux qui payent finalement.
Ouais.
Et donc voilà, après c'était les infos, machin, donc on n'avait pas droit à notre. Et c'était à cause d'Oum Kalsoum. Et puis je pensais aussi que c'était ma grand-mère parce que vraiment il y avait une photo d'elle sur la coiffeuse de ma maman, de sa chambre.
Ouais.
Et je pensais que c'était une vraie grand-mère. Quelqu'un de la famille, et puis elle venait jamais, alors je lui en voulais, je la voyais à la télé, je la voyais à la télé, ça voulait dire que je savais qu'elle était vivante. Mais elle venait jamais nous voir. Je la détestais, et puis, mais quand même, c'est marrant, parce qu'en même temps, à l'âge de 5 ans, j'écoutais inlassablement ce CD, ce disque, ce 33 tours de Al-Atlal, qu'on aura l'occasion, je crois, d'écouter, une chanson qui dure une heure. Et que j'écoutais avec mon frère. Quand je lui ai montré le CD, d'ailleurs, il était mort de rire. Il m'a dit, tu as osé écrire ça? Parce que je l'ai écrit dans le CD, qu'on regardait ce 33 tours pendant des heures.
Ah.
Et finalement, on allait demander à mon père que voulait dire ce passage, ce mot. C'était de l'arabe littéraire aussi.
Mais
c'est peut-être le 33 tours aussi qui tourne.
Déjà, tu as une phase de 20 minutes, une autre phase de 20 minutes. Donc c'est déjà,
il
y avait le temps.
Mais on tournait. Non, c'était pas 20 minutes. C'était
30 minutes.
Cette musique. musique, elle passait une heure, quoi. Il y avait 30-30.
Bah, une heure sur un vinyle, je ne me sens pas que ça passait une heure.
C'était un grand, sur... comme ça, un 33 tours. Mais, c'était la chanson Latlal, ouais. C'est une heure, donc voilà.
Mais il n'y avait pas la pause au milieu
Oui, bien sûr, on tournait l'autre côté, bien sûr, pour terminer la chanson. Mais voilà, ça, c'était... Mais on était quand même dedans, on était fascinés. Ouais. C'est un peu comme si on était attirés par son bourreau, quelque part. Ou alors, c'est vraiment ce mouvement du 33 tours, je ne sais pas, qui était assez hypnotisant.
Mais c'est peut-être les paroles aussi
Non, parce qu'on on comprenait pas tout.
Ah ouais.
Mais c'est marrant qu'on écoute ça, quand même. C'était... Bon, on écoutait aussi Dalida. Hein. Il y avait un 45 tours de Dalida qui tournait aussi pas mal, parce qu'on avait un oncle qui a ramené ça de France et tout. Ouais. Mais voilà, mais c'était le 33 tours. C'était... Peut-être que si ça avait été une cassette à l'époque, on n'aurait même pas écouté, même pas... Mais c'était magique. Est-ce que cette petite aiguille pouvait sortir ce son avec ce truc qui tourne? Faut vraiment remonter à cette époque-là.
On a plus ou moins le même âge, hein, donc. Je me souviens de cette époque-là, ouais.
Et aussi dans un village où vraiment, enfin nous on avait de la chance, on avait un lecteur, un gramophone, c'est
ouais,
ça.
Ouais,
on avait
ouais,
ça,
ouais,
mais c'était pas.
Un pick-up, comme on appelle
voilà,
ça.
Voilà, les gens avaient des radios, quoi, ouais. Ils avaient pas, ouais. Ils avaient une petite radio cassette éventuellement.
Voilà, donc la musique, vous voyagez plus en cassette qu'en vinyle en fait. Le vinyle, c'était non, déjà un peu plus.
Voilà,
luxueux.
C'était plus luxueux, c'était plus les gens qui. Enfin, ma mère était du Nord, donc on avait ramené ça avec nous. Mes parents, mon père a étudié à l'ULB, donc ils ont ramené quand même des choses d'ici, des bagages d'ici, et il y avait des choses. Oui, il y a le vinyle, c'était.
Ok. Et donc par ce vinyle, Oum Kalsoum, bah ça commence à rentrer un petit peu. Tu commences à aimer. Toi, tu commences à avoir envie de chanter aussi.
Oui, moi je chantais comme toutes les filles là-bas. À un moment donné, vraiment, c'est ce que je dis, on tapait sur un petit plat, une table, bon, et les chansons un peu plus populaires et tout, mais ça, on chantait avec, ça rentrait par la force des choses. Je veux dire, maintenant, Moufadel, par exemple, il me dit, tu connais telle chanson? Je dis, ah, c'est comment? Ah oui, et là, je me rends compte que je la connais en entier. Que c'est rentré, mes parents écoutaient ça tout le temps, donc je la connais. Et puis celles surtout qui ont été pour lesquelles on avait plus de faiblesse, et puis celles-là, je les connais vraiment. Et puis ce CD arrivé à ce CD aujourd'hui.
Ben écoute, on va faire une petite pause musicale si Aymeric le veut bien.
Avec plaisir.
Avec un morceau de ton album où justement où tu reprends Oum Kalsoum et qui sera l'objet du concert du 20 mars au Sangor.
Ouais, c'est ça.
Et après ça, on reparlera. Bah de Oum Kalsoum et pourquoi tu fais cet hommage à cette chanteuse.
D'accord.
مشتاق
الوداع دل قلوبنا على الوداع لما اشتكت لك وحني قلبك والعشرة طالت وبان لي حبك حفظت عهدك وصنت عهدي قولي يا قاسي تفوتني وحدي يلي ظلمت الوداد ورضيت بطول البعد يلي ظلمت الوداد ورضيت بطول البعد ارحم أنين الفؤاد البعد هضناني طول البعد ارحم أنين الفؤاد البعد هضمني ارحم أنين الفؤاد البعد حضناني والهجر بكاني والروح معاه
sur Djiboutique ce mercredi soir, hein, Djiboutique tous les mercredis entre 18 et 19h avec Galia Benali qui nous fera bientôt un concert au Sangor, c'est le 20 mars et dépêchez-vous parce que apparemment la salle se remplit très vite. Je pense que ça doit déjà être sold out, si pas aujourd'hui ce sera demain, donc dépêchez-vous.
Facebook marche bien.
Thierry fait bien son travail.
Ouais.
Alors, on était au chapitre Oum Kalsoum. On vient d'entendre un morceau du CD qui s'appelle comment
Galia sings Oum Kalsoum.
Waouh. Elle. Et donc, bon, bah, c'est une artiste de référence. Hein, c'est l'espèce de grand monstre.
Oui, on l'appelle la quatrième pyramide d'Égypte.
Voilà, carrément.
Ouais, Non, non, c'est l'astre de l'Orient. Enfin, tous les noms. C'est une sainte. Oum Kalsoum, ça ne se présente plus. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon CD, j'ai jamais écrit une seule note sur sa vie, ni sur sa bio, ni rien, parce que je trouve ça ridicule. Faut aller sur Internet et voir comment ça explose, tout ce qu'il y a sur elle. Ouais. Non, j'ai juste demandé à mes compagnons, justement, du CD, que certains la connaissent bien, d'autres pas, comme l'ingénieur du son, notre manager, ou Vincent Noiret, qui est une clé dans ce CD aussi important.
Vincent Noiret, c'est le contrebassiste.
C'est contrebassiste, de vraiment leur demander comment vous voyez Oum Kalsoum, comment tu l'as senti, qu'est-ce que tu as senti par rapport à ce projet. Là, c'était très important pour moi. Et par exemple, demander à Moufadel et à Zedine comment ils voient dans leurs souvenirs qu'est-ce qu'elle représentait, c'est très important. Ça ferait plutôt sourire les Arabes parce qu'ils ont tous ce même souvenir. Et c'est bien pour les Occidentaux. Comme ça, ils se disent, ah oui, c'est comme ça que les Arabes pensent, c'est ce que les Arabes pensent d'elle. Donc je voulais vraiment dans cet album, dans ce booklet, mettre quelque chose en plus de ce qu'on peut trouver sur Internet,
ouais.
Notre sentiment profond et personnel sur Oum Kalsoum. Moi, j'ai écrit un petit mot aussi, comment je la sentais. Donc c'était très important pour moi que ce soit des personnes physiques qui en parlent, qui sont des musiciens en l'occurrence, ou un manager, ou un ingénieur du son extraordinaire qui m'a fait un son sublime sur l'album et qui ne connaissait pas du tout. Et c'était très important pour moi d'avoir son feedback, comment il sent le truc. Voilà,
ouais.
Le truc. Oum Kalsoum, le truc. Mon Dieu, quel blasphème.
Mais c'est effectivement intéressant parce que... le contrebassiste en parle, je ne me souviens plus de son nom comme ça,
Vincent
Noiret, voilà, j'ai son nom sous les yeux, qui effectivement apparemment est assez désemparé, et c'est mon cas aussi, hein. Moi j'ai essayé, en préparant cette émission, j'ai été écouter Oum Kalsoum, ce qu'on trouvait sur internet, était loué des CD à la médiathèque, et je suis effectivement très perdu par rapport à ces musiques-là, parce que je retrouve aucune référence de ce que je connais en musique, pas de refrain, pas de couplet, pas de thème même. Donc c'est quelque chose. Est-ce que c'est de l'improvisation? On a déjà une première réponse. Tu nous as parlé de musique modale, qui est déjà une première réponse. Maintenant, si tu peux nous en dire plus, comment appréhender cette musique, ses paroles, le personnage?
Non, mais c'est-à-dire qu'Oum Kalsoum chantait pendant une heure et demie. Elle était sur scène et elle chantait une chanson où il y a aucun refrain. Mais c'est comme si c'était des... Il faut prendre ça comme si c'était des petites chansons. C'est-à-dire qu'on passe... C'est une poésie. Par exemple, les quatrains d'Omar Khayyam, qu'on connaît bien ici, ben, il y a 100 quatrains. Ben, elle, elle va prendre, je ne sais pas moi, une vingtaine de quatrains. Et pour chaque quatrain, on a prévu... une musique spéciale, un arrangement spécial, et on passe de quelque chose à l'autre. Et c'est bien pensé dans la longueur pour que, tout d'un coup, ça se construit petit à petit, pour qu'il y ait des moments de silence, pour qu'il y ait des moments de rage, pour qu'il y ait des moments de percussion, d'amusement, de plus léger, pour qu'il y ait des moments plus dramatiques. Donc c'est vraiment, c'est comme dans un film. On voit ça comme un film. C'est très imagé d'ailleurs, parce que la poésie arabe est très imagée aussi. Donc on est là pendant une heure et demie, on écoute. Bon, c'est clair qu'il faut comprendre. Et on écoute et on passe sans problème l'épreuve. Pour vous, c'est une épreuve parce que vous comprenez pas. Mais moi, ce que j'ai fait va peut-être plus vous parler parce que on a fait, bon, je chante exactement les chansons telles qu'elles sont. J'ai rien changé dans la mélodie et tout. Mais par contre, on a fait un autre arrangement et on a attiré plus l'attention sur d'autres, les émotions qui se dégagent des chansons et tout ça. Et par exemple, j'avais envie que si j'invitais un bassiste extraordinaire qui est Vincent Noiret, ben, je voulais entendre le son de Vincent Noiret et je voulais pas qu'il se noie dans une masse. Moufadel joue, il est là, il est bien présent et on entend chaque note.
Ouais.
Azedine, pareil. On aura aussi un invité à Sangor qui est à Naï. Mais bon, là, c'est vraiment pour le concert. J'aime beaucoup la personne qui joue du Naï, qui est Oussam Belkadi. Et voilà, j'aimerais bien l'inviter. Maintenant, l'idée, c'est quand même de ne pas trop charger le truc et toujours à pouvoir entendre comment chaque musicien, lui aussi, ressent cette musique-là. Pour que ça, comme j'ai dit, c'est vraiment au niveau de l'émotion, de qu'est-ce qu'on ressent et qui va passer finalement au public.
D'accord.
Parce qu'effectivement, écouter Oum Kalthoum, à part l'écouter intellectuellement pour un public qui ne connaît pas, voilà,
c'est un peu ardu, effectivement.
Ça peut être comme une musique contemporaine.
Écoute, moi, j'avais l'impression que c'était une musique de péplum, tu vois, les péplums romains avec, comment s'appelle la grande reine égyptienne Cléopâtre, voilà.
Oui.
J'avais ces images-là qui venaient en écoutant cette
musique. Oui, mais maintenant, c'est parce qu'on sait que c'est une égyptienne, mais c'est pas du tout égyptien des pharaons, par exemple.
Voilà.
C'est pas ce genre de musique
mais
du tout.
Péplums,
c'est vraiment très arabe.
Ils reprenaient ces musiques-là parce qu'on ne sait pas comment était la musique égyptienne antique. Quoi.
Oui, tout à fait. Moi, je suis arrivée en 87 en Belgique et très, très vite, je ne sais pas, on m'a dit, je me suis retrouvée dans un mouvement de musique du monde à l'époque où on m'a dit, Galia, toi, tu mets des ponts entre ces deux cultures. Donc, on arrive tout d'un coup à communiquer un peu mieux. Donc, j'espère effectivement que le public non averti qui viendra le 20 mars au Sangor, j'espère qu'il il pourra...
Je pense déjà que par la simplification des arrangements que vous avez faits, ça va passer plus facilement. Parce que quand on écoute Oum Kalthoum, ces vrais morceaux, il y a tous des arrangements, toute une décoration musicale comme ça avec un grand orchestre. Alors ça m'étonne que tu m'aies dit qu'avec un seul percussionniste, on a l'impression
qu'il tenait tout l'orchestre.
Qu'il y a une troupe énorme.
C'était beaucoup de cordes, beaucoup de cordes. Basses, des violoncelles, des... Enfin, mais moi j'ai simplifié au niveau des sons, mais en fait ça donne du coup beaucoup plus d'ampleur. Parce que par exemple il y a un morceau dans le CD où l'ingénieur du son me dit tu peux me donner l'original, je vais écouter. Ou le bassiste aussi m'a demandé ça. Puis il me dit tu sais quoi, je comprends rien. La musique elle est à la rue, elle chante là, les musiciens. Enfin toutes les sonorités se mélangent et tout et on n'arrive pas à capter. C'est quoi la mélodie finalement? Et moi, je donne beaucoup plus d'ampleur à la mélodie, je donne beaucoup plus d'importance. Finalement, ça sert à rien tous ces sons qui sont. D'abord, aussi, les enregistrements n'étaient pas toujours en studio, de ce qui nous parvient. C'était aussi des soirées où il y avait beaucoup de gens, et bon, les musiciens, ils fument une clope, ils boivent un coup entre temps.
On entend les gens de la salle parler.
Exactement. Mais ils ont le droit de réagir.
Les gens qui disent chut.
Oui. Des gens hurler quand il y a un morceau magnifique, un passage magnifique. Ouais. On leur demande de le chanter et 10 fois on va lui demander de chanter ce morceau-là. Donc,
alors, on va entendre un morceau de Oum Kalthoum. Bon, là, ce sera un morceau enregistré en studio. C'est le morceau Al-Ward Gamil.
Al-Ward Gamil. Les roses sont belles.
Ouais.
Donc toujours sur Djibouti avec une chanson de Oum Kalsoum.
Ouais, une chanson d'un film. Bon, ben on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Moi, je voulais parler un peu plus de Oum Kalsoum, mais on n'aura pas beaucoup de temps. Mais je voudrais quand même poser une question, et c'est une question que je te poserai à toi aussi. Bon, je peux plus la poser à Oum Kalsoum, mais évidemment. Par rapport à tout ce qu'on entend maintenant, au débat qu'il y a en ce moment par rapport à la culture arabe ou musulmane. Bon, ben la femme artiste, on se demande quelle est sa place, parce que on parle du voile, on parle de la burqa, on parle des intégristes. Toi, tu m'as un peu parlé de la vie en Tunisie, enfin, hors antenne, tu peux peut-être nous en reparler un petit peu. La place de Oum Kalsoum aussi, qui au début devait s'habiller en garçon pour chanter.
Pour chanter le Coran essentiellement. Ouais. Parce que ça, c'est... Bon, la voix féminine est aura, ça veut dire, est un... C'est un peu un péché, disons, de chanter pour une femme. C'est quelque chose, aura, c'est quelque chose à cacher, comme les cheveux, comme les, enfin bon, le corps, les bras, les. C'est tout ce qui est peut séduire ou peut attirer un homme. Voilà, il faut cacher. Ah. Bon, moi, j'ai pas grandi là-dedans. En Tunisie, on a beau parler, même moi, j'étais dans un village très traditionnel, très fermé et tout, mais oh, les femmes, on voyait leur rondeur, on voyait tout sous cet habit traditionnel qui était. Elles pouvaient se cacher quand elles voulaient et finalement se montrer quand elles voulaient.
D'accord.
Donc, moi, je dirais que la femme, finalement, la femme est artiste partout, tout le temps dans le monde arabe, dans ses besognes de tous les jours. C'est elle qui va créer des nattes, faire des tissus, faire des machins, artisanes, la femme artisane. Maintenant, la femme artiste chanteuse, c'est vrai que c'est mal vu. Une chanteuse est mal vue. Maintenant, Oum Kalsoum n'est pas passée par ça parce qu'elle a été tenue très vite par son père. Elle a commencé Coran. C'était dommage que cette voix ne chante pas le Coran d'ailleurs. Donc petite, avant la puberté, les filles peuvent être encore habillées comme les garçons et peuvent encore chanter des choses comme ça. Donc elle était habillée comme garçon et elle allait chanter le Coran, chanter aussi d'autres chansons dans les villages à côté, toujours accompagnée du père, du mohram, ouais. le père ou le frère qui va la protéger.
D'accord.
Et après, bon bah, elle a suivi ce chemin un peu très engagé. C'est une femme qui a fait des études, c'est une femme qui était très entourée très vite d'hommes tout le temps, mais qui était dans ce sens aussi androgyne, dans le sens où bah, elle n'était pas dans cette séduction-là. Et sa voix, elle passait au-delà de cette séduction physique pure et simple. C'était quelque chose, c'était presque un péché alors de ne pas qu'elle ne chante pas. Ah. Donc c'est devenu vraiment, je crois que...
C'est plus de l'ordre du mystique que...
Oui, voilà, c'est de l'ordre du mystique et finalement... Enfin, toutes ces femmes mystiques, finalement, elles ont été très bien acceptées puisqu'elles étaient quelque part des hommes. Il n'y avait aucun danger de séduction de leur part dans le mauvais... Dans le sens que les hommes n'aiment pas ou voilà, dans le sens de ces sociétés, de ces traditions-là. Et comme Rab al-Adawi, une autre grande femme soufie du 4e siècle irakienne qui a commencé à écrire, utiliser des mots d'amour pour parler de son adoration pour Dieu. Et vraiment des mots, quand on lit les textes, on dit, mais ce texte est écrit pour un amoureux, un amoureux physique. Oui. Il y en a une d'ailleurs que je chante aussi, le vin au Sangor. Une chanson où si on entend comme ça sans connaître l'histoire, ben, je chante pour mon amoureux et je dis des choses très très fortes. Mmh. Et, mais voilà. Je crois que la femme, il faut pas trop s'attarder sur les voiles et les burqas et tout ça. Finalement, ça c'est des choses aussi qui sont liées à des traditions finalement, beaucoup plus qu'à la religion, beaucoup plus. C'est-à-dire que là où ça pose un problème, c'est vraiment, c'est plus le côté été un petit peu, je pèse mes mots, ignorant de l'histoire. Je veux dire, ouais. C'est parce que c'est pas ça le cœur du problème. C'est pas ça l'essence de l'islam ou l'essence. C'est pas ça vraiment le problème. Voilà, moi j'aime pas même pas entendre parler. Pour moi, c'est même pas une polémique. Laisser les gens mettre leur burqa s'ils ont envie, leur étoile de David s'ils ont envie, leur perruque, leur je veux dire leur croix, leur je veux dire les gens ont envie de faire ça, bah faites-le. Maintenant, moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Moi,
je te demande pas particulièrement un avis sur cette polémique.
Moi, en tout cas, à une époque, je voulais porter ça et j'aurais pas du tout apprécié qu'on me dise ne le porte pas. C'est ma croyance. Si j'ai envie de me faire en punk, en machin, voilà, c'est mon choix finalement. Mais dans la burqa, je trouve ça un peu dur. Et je trouve ce que je trouve dur, c'est plutôt qu'il y ait des hommes ou qu'il y ait des êtres qui finalement obligent d'autres êtres à faire des choses. Je crois que ça, c'est le cœur du problème et c'est là que ça me dérange. Par contre, esthétiquement, le truc lui-même ou que certaines aient envie de le porter, moi, je suis plutôt pour qu'elles portent ce qu'elles ont envie de faire.
Mais Oum Kalsoum a fait quand même un célèbre concert où elle a demandé que les femmes retirent leur voile pour pouvoir chanter.
Ça, tu m'apprends
fait.
Quelque chose et j'en suis fière. Moi, je sais que Bourguiba, notre président à l'époque, quand il est revenu de l'exil et tout ça, première chose qu'il a faite, il a enlevé le voile à une femme tunisienne. Tout le monde, le peuple était là pour l'acclamer parce qu'il venait d'arriver à l'indépendance de la Tunisie en 56. Et on voit cette image où il enlève le voile, où elle le remet timidement, il l'enlève, puis à la fin, elle l'enlève et elle le prend. Et elle commence à jouer avec. Et plein d'autres femmes ont enlevé le voile et ont commencé à jouer avec. Bon, il y a cette image. Voilà. Et je crois que dans le monde arabe, c'est pas vrai. D'ailleurs, quand ceux qui partent là-bas, ils voient bien que c'est pas comme ça. Ils voient bien qu'il y a des mouvements politiques qui essayent, extrémistes, qui essayent d'imposer des choses et qui essayent d'imposer une image. Comme ceux qui avaient la croix gammée et que cette croix était taguée partout et pour montrer qu'ils sont dans ce mouvement. Voilà. Okay. J'ai fait un peu par hasard cette comparaison, mais pour moi, c'est du même ordre quand il y a un mouvement extrémiste qui essaye de absolument
imposer
des images et des références et des trucs. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est un mouvement extrémiste qui essaye de faire ça. Maintenant, il y a une manière de porter le voile très douce et très tendre et avec des couleurs et qui n'est pas une burqa et où les femmes ont choisi de le porter parce qu'elles sont plus à l'aise. Il y a aussi côté tradition, il y a cet habit traditionnel qui est très beau, qui est comme ça, et que les gens traditionnels ont envie de suivre la tradition et le faire, et qui n'est en aucun cas une insulte à d'autres traditions, à d'autres religions, ni une provocation, ni rien. Je veux dire, moi je crois qu'on ne faut pas se mêler trop de ça. Mais par contre, oui, se préoccuper de voir si est-ce que dans les droits de l'homme, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui sont en train d'en prendre plein là,
Voilà, je crois que Hubert, on arrive
à la fin.
Moi, je reviendrai.
Pour remercier Galia beaucoup.
Okay. Et puis, je laisse un petit peu de choses à dire comme ça sur scène.
Ah ben voilà. Ok.
Donc, on rappelle que Galia sera en concert ce samedi au Sangor. D'ici là, qu'est-ce qu'on vous propose ? Il y a l'Ex Cantina à Saint-Gilles jeudi avec de la musique brésilienne. Vendredi, un concert de Karim Baghili à la salle Molière et également à la Maison du Peuple, un groupe de soutien aux gens qui ont subi le tremblement de terre au Chili. Ça se passe donc à la Maison du Peuple ce vendredi. Et donc voilà, samedi, on l'a déjà annoncé, Galia Ben Ali au Sangor et il y a aussi le Scarnaval à Scarbec.
D'accord, mais dépêchez-vous pour Galia Ben Ali parce qu'on vous l'a dit, des places partent.
Sinon, il y a un autre concert au Zuidersbershuis à Anvers le 18.
Une très bonne salle.
Voilà,
avec
une très bonne salle, beau son et tout. Ouais. Mais bon, Sangor, c'est le Sangor.
Voilà, on se quitte avec un petit extrait très rapide de Karim Baghili. À bientôt.
Ok, merci Galia.
Merci à toi, au revoir.
Au revoir.